La musique.
Caravane à maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon grand galant!
Vive le soleil!
Vive les oreilles!
Vive!
Doodly, oodly, hey, doodly, oodly, doodly, oodly, doodly. Riding on an eastbound freight train, speeding through the night. Hobo Bill, the railroad bum, was taking his last ride. As the train sped through the darkness with that raging storm outside, Hobo Bill, the railroad bum, was fighting for his life. Ho, ho, boo, ho, Billy. Well, the sadness of his eyes revealed the torture of his soul as he raised a weak and a weary hand to brush away the cold. Outside, the rain was pouring on that lonely boxcar door, and the little form of Hobo Bill lay still upon the floor. Ho, ho, boo, ho, Billy. Doodly, oodly, doo, oodly, oodly. As the train sped through the darkness with that raging storm outside, Hobo Bill, the railroad bum, was taking his last ride. Oh, boo, Billy. He heard the whistle blowing in a dreamy sort of way. The hobo seemed contented, for he smiled there where he lay. It was early in the morning when they raised the hobo's head. Smile still lingered on his face, but Hobo Bill was dead. Oh, boo, oh, Billy. Doodly, oodly, doo, oodly. Well, there was no mother's longing to think of his weary soul. He was nothing but a railroad bum who died out in the cold. Oh, boo, oh, oh, Billy. Doodly, oodly, doo, oodly, doo, hey, oodly.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. 89.4 sur la bande FM et partout ailleurs via le site de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée au Redneck aujourd'hui et je laisse la parole à Yves-Marie Mahé qui va nous expliquer le thème de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Yves-Marie.
Bonjour et donc on a commencé par le morceau Redneck Hobo Bill de Cisco Houston qui date de 1953 parce que... Bah, ce qui va enchaîner après cette présentation, c'est une heure de discussion avec Maxime Lachaud, qu'on a interviewé avec Derek et chez moi, et on a enregistré ça il y a une semaine, pendant que Christophe faisait l'autre émission de la semaine dernière. Donc on va vous le diffuser. On recevait Maxime Lachaud à l'occasion de son livre « Redneck Movies, ruralité, dégénérescence dans le cinéma américain ». Qui est sorti aux éditions Rouge Profond. Et donc, c'était un entretien assez passionnant, même si on ne s'intéresse pas au cinéma ou spécifiquement la culture américaine. Il y avait un regard social qui est très intéressant. C'est aussi Maxime Lachaud qui a fait la programmation musicale de l'émission, qui est une programmation redneck aussi. On peut dire, pour présenter Maxime Lachaud, que c'est un activiste de la scène underground, qu'il anime une radio toulousaine, qu'il a aussi un label qui s'appelle Douche Froide, qu'il écrit des articles dans la revue qui s'appelle Obscure, et qu'il a déjà publié un livre sur le Mundo. Donc, et ben voilà, c'est parti pour une heure de voyage dans le sud des États-Unis autour du cinéma d'exploitation.
Maxime Lachaud est avec nous. Tu as écrit un ouvrage avant sur les films Mondo. Mmh. Et donc là, tu nous parles du survival et donc ton ouvrage, c'est sur les rednecks au cinéma. Et d'où vient cette passion pour les mauvais genres et, ou les mauvais personnages ? D'où ça vient, tout simplement ?
C'est, bon, après, moi, j'ai toujours aimé le cinéma. J'aime pas le cinéma. Je crois que dans ma vie, je suis très peu allé dans des grandes salles de cinéma, tout ça. Ça m'intéresse pas. Et en fait, le cinéma, souvent, j'y suis allé par le biais d'autres formes artistiques. Je pense que le Mondo, j'y suis allé par le biais de la musique. Je pense que c'est la musique industrielle qui m'a mené vers les films Mondo, parce qu'il y avait pas mal de groupes industriels qui utilisaient des scènes de ces films-là pour les mélanger, pour faire des sortes de vidéo-chocs, etc. Et le cinéma de Redneck, ça a été la littérature qui m'y a mené. Depuis très 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 longtemps, je suis un gros fan de littérature du sud des États-Unis. Collectionne, j'ai des centaines, des milliers de livres même, j'en ai partout. J'adore ça. Et je pense que j'avais travaillé sur l'auteur Harry Cruz. J'avais fait une sorte de gros essai sur lui. Et c'est en travaillant sur lui, donc ça devait être dans les années 2003, 2004, 2005, que vu que ses romans un peu majeurs dataient des années 60-70, ça m'intéressait de voir ce qui se passait un peu autour. Et c'est là où, en rencontrant des écrivains du Sud, ils me parlaient de ces films qui passaient dans les drive-in. Bon, après, bien sûr, je connaissais Délivrance, Massacre à la tronçonneuse, je connaissais les films connus. Mais je ne savais pas qu'il y avait des centaines de petits films qui avaient été faits autour de trames narratives assez proches. Et ils m'ont parlé de ces productions, vraiment, fin des années 60, début 70. Ils n'avaient des tas et des tas. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à creuser ce qu'il y avait, ce que je pouvais trouver en VHS. Très peu ont passé le test du DVD. Et comme ça, j'ai commencé à collectionner et à fouiller. Et par contre, après, quand j'aime bien un truc, je fouille longtemps. Je vais toujours chercher. Je découvre encore plein de films. Là. Après, oui, je m'arrête. Quand je suis passionné par un truc, après, je dévore tout.
Enfin, ton ouvrage est vraiment passionnant. Et peut-être que tu es le premier en France à avoir autant écrit sur le sujet.
C'est vraiment, je me suis basé sur ce cinéma, donc dit d'exploitation, qui est un terme qui est apparu dans la critique américaine vers la fin des années 70, et qu'on associe en gros à des tas de productions indépendantes qui se sont faites en gros au tournant des années 50-60, jusque carrément début des années 80 en gros, mais avec le gros morceau, c'est les années 70. Et donc, il y a deux, on peut dire qu'il y a deux courants principaux. Un courant qui sorte d'horreur réaliste, un courant presque de l'horreur documentaire, où en fait, on a quasiment toujours le même genre de trame narrative, toujours une confrontation entre citadins et ruraux, et toujours entre civilisation et sauvagerie. Et avec toujours cette idée du Yankee, du gars du Nord, la femme du Nord, qui descend dans le Sud, et où là, il y a confrontation. Et il y a impossibilité d'entente ou de réconciliation, donc on va rentrer dans une violence infligée à l'autre, qui ne va faire que s'accroître, en gros. Alors ce premier courant, là, il vient un peu de films comme... Pour White Trash, qui était en fait le retitrage d'un film qui s'appelait Bayou de 1957, et qu'il a été retitré pour White Trash en 1961 par M.A. Rips. Là, ça a été un vrai carton de drive-in. Et donc, à la suite, il y a eu pas mal de cinéastes du cinéma, qu'on dit d'exploitation, qui sont rentrés dans cette brèche. Les plus connus, c'est par exemple Herschel Gordon Lewis ou Russ Meyer. Et donc, il y a un autre courant que certains disent que ça pourrait découler du film La Route de la Fraude, un film de 57 avec Robert Mitchum. Et ici, là, c'est plus des histoires de distilleurs d'alcool de contrebande, voilà, de trafiquants qui customisent leurs voitures et qui sont poursuivis par des shérifs redneck plutôt stupides, en général. Mais en fait, le premier exemple était assez noir, c'était un film vraiment dramatique, et ce qui suivra sera plus de l'ordre de la comédie d'action, en gros. Donc ça, c'est les deux gros courants, et après, il y a des tas de ponts qui vont se faire avec des tas de déclinaisons. On va avoir du film de créatures des marécages dans le milieu des rednecks, on va voir de la pornographie redneck, on va avoir même du film de redneck féministe dans les années 70. Donc on va avoir des tas de déclinaisons, mais toujours autour de ces deux lignes principales.
Ah oui, je voulais te demander une question par rapport à les prémices. Où c'est qu'on pouvait trouver les films ? J'imagine que dans le cinéma muet, on peut trouver des films précurseurs.
Oui, ouais, carrément. En fait, on peut même remonter un des premiers personnages de Redneck, on peut le trouver en 1903, dans l'adaptation de La case de l'oncle Tom, vu qu'il y avait le personnage de Simon Legree, qui est une sorte de Redneck littéraire. Ensuite, alors après c'est passionnant, parce que je suis tombé sur une thèse où dans les années 10, il y a eu ce qu'ils ont appelé les Moonshine Movies, bien avant les films des années 70, où il y avait ces films à la cour après moi, shérif, tu fais pas le poids, shérif, avec tous ces courses-poursuites entre les moonshiners et les shérifs. Bah, apparemment, il y avait plein de films.
C'est quoi les moonshiners ?
Les moonshiners, c'est ces gars qui font du whisky de contrebande sous la pleine lune, donc c'est d'où vient le nom. Et souvent dans la forêt, c'est des traditions familiales. C'est vraiment lié aussi à cette culture. Le redneck boit du moonshine. Et donc, dès les années 10, il y avait plein de films, du nous de bobine, hein, des films courts. Là-dessus, toute une vague rurale. Dès les années 20, on trouve des films qui sont vraiment précurseurs. Il y a David Landurant, il y a Sparrows. Il y a carrément, dans les années 30, un film comme Child Bride. On est déjà dans de la exploitation, en fait. Donc oui, il y a pas mal de précurseurs. Hein.
You Ain't From Round Desert Parts par Andrew Lyles.
Sinon, il y a des analogies que je trouve vraiment passionnantes et même paradoxales par rapport à ce qu'on entend par redneck, donc le sudiste, donc très souvent raciste, très souvent obtus. Et tu fais des fois un parallèle avec des fois dans le cinéma des années fin 60-70, quelque part un nouvel avatar des Indiens. À un moment donné, donc c'est quand même un paradoxe d'identification assez étrange par rapport
et à... Pas tellement. Bon, déjà, comme je disais, le redneck, il a un peu pris la place de qu'avait l'Indien dans les westerns, dans ce genre de film, parce qu'au bout du compte, voilà, le redneck, qui représente quelque part une sorte de préhistoire américaine presque. Il était là dès le début, il s'est reproduit dans les Appalaches, dans ces campagnes isolées. On l'a découvert plus tard qu'ils étaient là depuis plusieurs générations, et ils étaient autonomes, ils vivaient selon leurs propres lois. Et certains, et là c'est ce que dit John Boorman quand je l'ai interviewé, quand il a fait ses repérages pour Deliverance, c'est que certains s'étaient reproduits avec les Indiens. D'où le fait que leur peau, elle est vraiment rouge. C'est pas que le soleil qui a tapé dessus. Mais bon, je plaisante, mais il y a eu beaucoup de sang mêlé, en fait. Et ça, c'est dans l'histoire, c'est avéré. Ils se sont entre ces descendants de pionniers. Et les Indiens, il y a eu bien sûr des rencontres qui se sont faites. Donc non, c'est pas si contradictoire que ça. Et après, cette image de racisme, il y a eu des faits avérés, évidemment, mais on peut pas mettre ça que sur le pauvre blanc du Sud, parce qu'en fait, toutes les classes étaient concernées. Et de toute façon, quand on lit des bouquins sur le lynchage, on s'aperçoit que, par exemple, il y a eu aussi énormément de femmes blanches pauvres qui ont été lynchées, par exemple. Donc il y a eu un peu tous les pans de, et il y avait des noirs qui étaient lynchés par des noirs aussi. Il y avait un peu toutes les formes de figures. Mais évidemment, vu que le cinéma se nourrit de stéréotypes, forcément, pour le redneck, souvent, il est représenté au cinéma comme absolument diabolique, méchant, démoniaque. C'est une sorte de... On lui met tous les maux de la terre dessus.
Mais c'est ça qui est beau dans le bouquin, c'est que ça en devient un plaidoyer qui dépasse le cinéma de la figure sociale, même redneck, presque, par rapport à qui a sa propre culture. Donc
et c'est pour ça que le terme... ces sociologues qui disent que la société américaine, elle s'est fondée sur ce stéréotype du redneck, je pense que c'est pas faux. C'est là où il a une vraie statue d'icône. Hein. C'est un mythe, en fait, le redneck. Et forcément, une société, elle a besoin de boucs émissaires ou de croque-mitaines, presque. Et donc déjà, le Sud, vu son statut dans l'histoire, avec l'esclavagisme et tout ça, a toujours été un peu... Le Sud, même s'il y a plusieurs Suds dans le Sud, hein, mais ça a toujours été un peu le bâtard de l'Amérique... Il y a toujours cet humour, hein. On va pas dans le Sud, tu vas te faire violer. Il y a même cette expression, hein, to go down south. C'est littéralement descendre dans le Sud, mais c'est aussi, c'est péter les plombs, enfin, c'est à tous les sens du terme, ouais. Tu vois. Il y a vraiment, d'ailleurs, les personnages dans les films, ils descendent dans le Sud, tous les sens de l'expression. Et donc oui, ça c'est vraiment... et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le fait que le mot... Moi, j'ai choisi le terme redneck, mais en fait, quand on suit l'histoire américaine, ça change perpétuellement, en fait. Redneck, c'est un terme, au bout du compte, assez récent. Ça fait que depuis quelques décennies qu'on l'utilise vraiment beaucoup. Mais avant, on utilisait les trash, et avant, c'était l'inted. Et avant, il y en avait encore d'autres. En Géorgie, ils vont plutôt parler des crackers. Et pour les montagnards, on va parler des hillbillies. Et donc, il y a des tas et des tas de termes qui sont utilisés, mais qui renvoient toujours à quasiment la même image. Et qui est tellement stéréotypée, on peut facilement la dessiner. Hein. D'ailleurs, il y a des croquis depuis même la fin du 19e dans la presse. Le redneck, il est très facile à dessiner. Hein. On lui met une chemise à carreaux, on lui met pas de chaussures, on lui met une salopette. on lui met une casquette rouge ou on lui met un chapeau tout défoncé. On lui met une peau bien rouge et de la boue plein les doigts. Et ça y est, on a notre redneck. Hein. On le fait mal parler, mal conjuguer les verbes. Il va parler des patois sudistes. Et puis il est très facile à repérer, ce stéréotype. Hein. Et c'est pour ça que le cinéma, c'est facile de l'utiliser. Et évidemment, pas que dans les films vraiment typés redneck. Dans le cinéma américain général, ils peuvent jouer très souvent de ce stéréotype, en caser un de temps en temps, voilà, à des fins souvent comiques et horrifiques à la fois. Ça va être un personnage qui aura toujours les deux.
White House Blues by Ian Taylor.
McKinney, hollering, McKinney, squall. Doc said, McKinney, I can't find the code. You're bound to die, bound to die. Oh, the doctor running took off his bag. Said, Miss McKinley, better catch you in your check. You're bound to die, bound to die.
Ça, parce qu'avec Derek, on avait fait il y a pas très longtemps une émission sur le. Et Derek et Christophe, c'est une émission sur le survival. Il y a beaucoup des films en fait qui sont proches du survival en fait.
Oui, oui, la survie c'est un des thèmes vraiment très très important parce que c'est quand on est confronté avec ces bouseux sanguinaires, frustrés sexuellement, cannibales, etc. Comment on en réchappe. Et donc là, souvent la personne civilisée va devoir jouer le rôle. Va devoir se livrer à la barbarie, va devoir chercher la bête en elle. Donc du coup, oui, le survival, c'est y a énormément de liens, comme avec le rape and revenge, par exemple. On est aussi dans la thématique de la survie. Et dès les premiers films d'exploitation, au tout début des années 60, il y avait déjà des jeunes filles violées, dans la boue souvent, c'est toujours cette thématique du corps blanc qu'on va mettre dans la boue et souiller, et qui se venge dans Moonshine Mountain d'Herschel Gordon Lewis. Il y a la jeune blonde édentée qui se fait violer par le shérif redneck justement, et qui va le jeter dans l'alambic après l'avoir tué à l'âge. Donc on a beaucoup de liens avec ces sous-genres de l'horreur. On a aussi des liens avec la comédie musicale, parce que la musique country, hillbilly, elle est extrêmement importante. Des liens avec le documentaire, vu que c'est souvent avec des autochtones, vu qu'il n'y avait pas besoin d'acteurs très connus dans ces films-là. Donc il y a souvent un décor naturel, avec des acteurs du coin. Donc voilà, il y a même... On pourrait presque dire qu'il y a une réinvention du western dans certains films. Donc ça joue sur... moi je dis presque que c'est un surgenre, parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur.
Quand tu parles du soft porn, j'imagine que du coup, ça passe. Enfin, c'est... que ça se passe dans le milieu redneck, c'est... j'imagine que l'érotisme passe par le viol.
Non, ou quasiment tout le temps, oui, oui, c'est. Il y a cette obsession du viol, évidemment, les films érotiques redneck sont pas très stimulants, hein, parce que c'est. Et puis il y a toujours aussi ces blagues sur la zoophilie, tout ça. Mais le viol, oui, c'est une obsession du genre, hein, qui forcément c'est une métaphore, hein, parce qu'il y a le viol d'un territoire. Il y a aussi cette idée d'une tentative d'entente qu'on n'arrive jamais à avoir. Parce que quelque part, c'est ils essaient, avec leur mode d'expression primitif, de créer un lien, peut-être. Mais forcément, ça ne fonctionne pas. Ça n'est qu'une violence de plus qui est infligée. Et puis aussi, après, c'est intéressant de voir qui c'est qui agresse qui. Comment le viol se fait, comment il peut être filmé. Là, il y a des choses vraiment intéressantes. Et dans l'ouvrage, je remonte carrément à l'histoire du lynchage, encore une fois, parce qu'il y a toute cette idée de la femme blanche du Sud, qui est aussi un mythe, la belle du Sud, un mythe qu'on trouve dans les Hauts-Temps n'emporte le vent et tout ça. Hein. C'est d'ailleurs marrant qu'on passe de ce Sud fantasmé des années 30, les films à la Jezebel, tout ça, à tout d'un coup un cinéma, donc en plus qu'à perdurer, même à la télévision surtout.
Mais c'est peut-être aussi avec les adaptations hollywoodiennes de Tennessee Williams, où on va choisir des belles actrices aussi pour incarner...
Ouais, mais déjà avec Tennessee Williams, ça commence à dégénérer. Parce que les belles dames du Sud, comme dans Un tramway nommé Désir, elles commencent à être un peu folles dingues, névrosées, et à dégénérer complètement. Meilleur exemple, c'est Baby Doll. Où là, la belle, pure... femme du Sud, blonde, en fait, elle est représentée un peu comme une dégénérée.
Ça ne rajoute pas au fantasme, justement, c'est-à-dire plus abordable, moins froide.
Ah ben ça, ça aussi, ça fait partie des clichés de la femme du Sud qui serait...
facile, quoi.
Ben facile, ouais. En plus, il y a eu toute une littérature dans les années 40, populaire, des sortes de pulp fiction... dans les bayous chez les bouseux, où elle était un peu libérée, la femme du Sud, elle était charnelle. Mais on s'aperçoit quand même que tout ça, ça se développe quand même à partir des années 40, et qu'avant, on était quand même plutôt dans l'image de la pureté, parce que la femme charnelle, c'était la noire. Donc du coup, voilà, c'était les propriétaires, on va se faire la noire, de toute façon, elle aime ça. Et la blanche, on n'ose pas la toucher, on n'ose pas l'approcher.
Elle était plus prête à tout, comme dans Alléluia de King Vidor.
Ouais. Non, mais il y avait les films de Griffith aussi qui dépeignaient le Sud, un peu ce Sud ancestral. Avait toujours cette... Alors, ce qui est intéressant dans les livres sur le lynchage, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu des associations de femmes dans les années 30, justement, qui ont commencé à revendiquer une sexualité. Parce que quand même, une des causes premières de lynchage, c'était ce fantasme du noir qui a violé une blanche. Et qu'en fait, c'était pas souvent le cas. C'était juste une terreur. Comme à la même époque, on pouvait avoir la terreur des enterrements prématurés, par exemple. Donc c'est selon les époques, ça évolue.
Just before the Civil War, there was a missionary Baptist preacher named Reverend Hicks who lived in central South Carolina. He decided to go into East Tennessee to do some missionary work, and while he was there, he became very sick of a fever. And thinking he would die, he wrote this song, the words and the music, and sent them back to his wife so they might be published.
Hicks Farewell by Doc Watson and Geyser Carlton.
Time is swiftly rolling on, when I must faint and die.
Let persecutions rage around. Let Antichrist appear beneath the cold and silent ground. There's no disturbance there. Through heat and cold I've toiled and went and wandered in despair to call poor sinners to and seek the Savior dear. My brother preachers boldly speak and stand on Zion's wall. Confirm the strong, revive the and after sinners call, my little children, hear my heart, and nature seems to mine. It grieves me sorely to depart and leave you here behind. O Lord, a father to them be, and keep them from all harm, that they may love and worship thee and dwell upon thy charm. My loving wife, my bosom friend, the object of my love, the time's been sweet I've spent with thee, my sweet, my harmless dove. How often you have looked for me and oftentimes seen me come, but I must now depart from thee and never more return. Though I must now depart from thee, let this not grieve your heart, for you will shortly come to me, where we shall never part.
Et ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est que tu déblayes tellement que t'en fais même une figure comparable médiatiquement, entre guillemets, via ton ouvrage et tous les films qui sont cités et qui sont liés à cette question, bah, la figure du zombie, en fait. Sauf que, ouais, que dans ton ouvrage, ce qui, où, pour moi, la vraie différence entre le redneck et le zombie, c'est que le redneck, il a quelque chose à la fois de pathétique et de magnifique. Enfin, c'est contrairement au...
Oui, puis il y a une différence, c'est que le redneck, même si on l'associe aux créatures fantastiques, parce qu'il y a eu toute une série de nouvelles d'horreurs qui... C'est, le premier volume, c'était Inbred Rednecks and Other Fantastic Creatures. En fait, c'était, il mélange les rednecks avec les vampires, les zombies. Il y a eu plein de films de production locale dans les années 80, c'est passionnante, qui mélange le redneck et le zombie. Donc là, c'est des films comme Ozone, l'attaque des redneck mutants, c'est Redneck Zombies, d'ailleurs rien que le titre, bon, voilà. Et ça, c'était plein de productions texanes qui vraiment mêlaient les deux figures. Mais après, là où c'est vraiment intéressant sociologiquement, c'est que je pense que le redneck, vu qu'il renvoie aussi à une histoire qu'on ne veut pas voir des États-Unis, aussi aux refoulés, aux pulsions, et puis souvent il émerge du marécage, des bois comme ça, comme des sortes de...
C'est pour ça que je pense aux zombies.
Voilà, c'est ça, c'est des corps qui remontent à la surface, comme ça a été le cas dans l'histoire en plus, parce que par exemple la Louisiane, faut savoir que vu que par exemple la Nouvelle-Orléans était au-dessous du niveau de la terre, ils enterraient leurs cadavres et les cadavres remontaient. Donc du coup, ils ont mis carrément les cadavres sur le sol ou au niveau des humains. Parce que sinon, de toute façon, ils remontent. Il y a toujours cette image, dans de très nombreux films de redneck, on a toujours cette image du corps qui ressort à la surface.
Et puis de représenter limite cet axiome horrifique qui serait ce qui est caché dégénère. Quoi.
Voilà, exactement. Ça. Donc il y a énormément de points communs avec les zombies... Ça, c'est sûr.
Alors moi, j'ai pensé à une analogie complètement, peut-être absurde, c'est à toi de me corriger, c'est, ça m'a fait penser à la frontière nord-sud, comment tu l'as décrit, un peu proche de la société italienne, par exemple, via le cinéma de Pietro Germi, entre le nord et le sud. Donc en même temps, il se moque du sud de Germi, mais en même temps, il dit qu'au moins, il n'y a pas d'hypocrisie, quoi. Voilà, ils sont plus nature, plus brut, peut-être, mais... Il y a peut-être plus d'authenticité, quoi.
Ouais. C'est vrai que dans les scénarios de ces films-là, en général, on va avoir le citadin, donc qui vient, peut venir de New York, pas forcément, il peut aussi venir de Los Angeles, il peut même venir des grandes villes industrialisées, un peu sur le modèle californien et tout ça, du sud. Par exemple, Sans retour de Walter Hill. Ou même Deliverance, c'est des citadins, là c'est des citadins d'Atlanta dans Deliverance. Walter Hill, on a des gens qui viennent des grandes villes du Texas, qui se retrouvent dans les bayous de Louisiane. Donc la confrontation ville-campagne, elle n'est pas forcément nord-sud, mais après forcément, il y a tout ce discours dans les personnages entre les Yankees du Nord. Donc les sudistes vont être totalement intolérants vis-à-vis d'eux, et les Yankees qui eux déboulent avec une arrogance absolue. Et il y a le film par exemple Hunter's Blood, c'est la chasse sanglante, où carrément ils arrivent avec leur appareil photo, ils prennent les autochtones, évidemment à la station service du coin, ou, voilà, et puis regardez, on va le filer à National Geographic. Voilà, donc il y a ça, même dans le film Pumpkinhead aussi, un autre film des années 80, où il voit ces familles de white trash, et il les compare carrément à des légumes, et il se moque de leur folklore. Bon, après, ils vont le regretter, évidemment.
Ouais. Comme Deliverance, il y a plein de petites analogies qui ont l'air de rien, et quand on le revoit...
Ah, mais tout le temps, quand ils arrivent à la station service, ils se moquent du vieux, etc., quand ils disent qu'on parle de dégénérescence, on ne s'attendait pas à ça. Donc c'est toujours... on est toujours dans ce genre de confrontation, d'irréconciliabilité entre deux sociétés américaines.
Le duel de banjo du film Deliverance par Eric Westberg et Steve Mandel. Thank you.
Je me demandais comment ça s'expliquait que qui connaît son que ce cinéma-là connaît son apologie dans les années 70, alors que ça peut paraître en contradiction avec des idéaux libertaires, hippies.
Ben, je sais pas, parce que quand on écoute les réalisateurs, quand ils en parlent aussi, c'est une vraie figure de rebelle, quelque part aussi, le redneck. C'est quelqu'un qui se plie à aucune règle. Et en même temps, il renvoie aussi à quelque chose qui était là aussi depuis longtemps. Donc quelque chose de peut-être rassurant, ou... Enfin, rassurant, c'est peut-être pas le terme. Mais en tout cas, le redneck, il était là, et son folklore, il perdure. Il n'y a pas de notion de temporalité avec le redneck. Le passé, le présent, l'avenir, ça sera toujours pareil. De toute façon, ils ne font que répéter ce que faisaient leurs ancêtres, etc. Et quand on écoute les discours des réalisateurs, très désabusés face à l'hypocrisie des politiques de l'époque, à la guerre du Vietnam, où de toute façon, tout le monde ne le percevait que comme une boucherie. Donc quelque part, il mettait cette boucherie à l'écran. Et le redneck, c'est un outil facile pour quelque part remplacer peut-être les Vietcong aussi, pourquoi pas. Parce que le film Sans Retour, c'est un peu ça de Walter Hill. Au bout du compte, ils refont le Vietnam, mais ils s'attaquent au QTRE à la place. Donc je pense qu'il y a pas mal de raisons forcément différentes selon les films qui font que le redneck, au contraire, je pense que ça m'étonne pas qu'il soit devenu, comme le hippie, soit devenu une figure très importante dans les années 70. Bah, d'ailleurs, le redneck, il semble vivre un peu comme dans les années 30, 1930, voire même avant. La Colina des yeux, où est-ce carrément une sorte de préhistoire réinventée. Donc, ouais, il y a ce rapport qu'on a aussi dans la littérature sudiste, hein, quand on lit les premiers romans de Cormac McCarthy, tout ça, on a l'impression de quelque chose d'ancestral, hein, une sauvagerie ancestrale qui aurait perduré. Dans les années 60, il y a eu tout un tas d'ouvrages sociologiques, voire même psychosociologiques, qui ont été des best-sellers aux États-Unis. Et c'était un peu du darwinisme social. Et d'ailleurs, un de ces ouvrages avait influencé Les Chiens de paille. Mais il y en a eu plein. Alors, c'était On Aggression. C'était toujours sur la bête dans l'homme, et l'homme en tant que... qu'être d'agressivité. Et apparemment, ces ouvrages, vu le carton qu'ils ont fait, ont, je pense... là, je n'ai pas les titres exacts en tête, mais il y en a 5 ou 6 qui ont cartonné plus que les autres. Et je pense qu'ils ont dû forcément influencer ce cinéma-là, qui a été fait quasiment en même temps, vu que c'est des ouvrages fin des années 60, et là, on est vraiment au tout début des années 70. Là, peut-être une influence, alors c'est une supposition, hein, de toute cette idée de l'homme comme un prédateur pour l'homme, et puis cette idée de protéger sa demeure, et que dès qu'on est menacé, les instincts se réveillent, et c'est la bête qui est réveillée.
Well, mate, said I know true love. Well, mate, said he, I'm just returning from the salt sea, and it's all for the love of thee.
The House Carpenter par Clarence Ashley.
Come in, my old true love.
Et The Ex avec Ian Burns.
And have a seat with me. It's been 3/4 of a long, long year since together we have been. Well, I can't come in or I can't sit down, for I haven't but a moment's time. They say you're married to a house carpenter and your heart will never be mine. nights I could have married a king's daughter, dear. I'm sure she'd have married me, but I've first taken her crowns of gold, and it's all for the love of thee. Now will you forsake your house, carpenter?
You forsaken your house,
and go along with me. I'll take you where the grass grows green on the banks of the deep blue sea.
I'll take you where the grass grows green on the banks of the deep blue sea.
Pick up her little name.
She gave him free. Said, stay right here, my darling little babe, and keep your papa company. Well, they hadn't been on ship for about 2 weeks. I'm sure it was not three. Says I, you weeping for my silver or my gold? Says I, you weeping for my store? Are you weeping for that house carpenter whose face you never see anymore? No, I'm not a weeping for your silver or your gold. For my darling little babe, whose face I'll never see anymore. Well, I hadn't been on ship for about 3 weeks. I'm sure it was not four. Till it sprung a leak in the bottom of the ship, and it sunk for to rise no more.
Dans le cinéma actuel, où c'est qu'on pouvait voir ces répercussions? Enfin, je pense à Shrewd Detective, en fait, qui est la série la plus intéressante.
Ouais.
Et
ah, c'est une bonne série. Ben, les gens m'en parlent pas mal, justement. Et forcément, vu que ça c'est totalement implanté dans le Sud, que ça fait référence à des traditions, une culture, à certains stéréotypes aussi, forcément, il y a plein de points communs. Après, c'est quand même... De la série télé contemporaine, donc ça n'a rien à voir avec les modes de production, etc., de ces films là moi, s'il y avait des suites à donner, je les verrais soit dans le cinéma documentaire, voilà, les portraits de white trash, tout ça, où je trouve qu'on a vraiment des points communs, puis dans les atmosphères, les ambiances, on se replonge vraiment dans cet univers, cette esthétique sale et tout ça. Ou sinon, dans des productions locales qui continuent, alors qui sont parfois très médiocres, mais c'est pas grave. Il y a un réalisateur texan, celui qui avait fait Bloodsucker from Outer Space, Suceur de sang, Glenn Coburn. Il continue à produire des films via Wicked Movies. Et là, son dernier, c'est The Hillbilly Butcher, où on est vraiment dans ces vieilles thématiques du cinéma d'exploitation redneck. Même dans les films un peu à la Bigfoot, il y avait une production locale, je crois que c'était du Texas aussi, Wild Men of Navidad, un truc comme ça, qui était sorti il y a 5 ans par là. C'est peut-être pas très bon, mais j'y trouve des échos quand même. Et après, je dis pas qu'il n'y a pas d'échos dans ces séries télé.
Killer Joe, moi je trouve ce film il est fascinant.
Ah.
Et c'est une, pour moi c'est une inversion de la nouvelle de O'Connor, Les braves gens
ne courent pas les rues.
Voilà, par rapport à, à cette figure, une sorte de cow-boy flic, et c'est vrai redneck qui finalement... Enfin, il se venge pas de lui, il rentre complètement dans son jeu, ce qui est assez étonnant. Alors normalement, il y a une sorte de conflit d'opposition, et là, il rentre complètement dedans, dans son délire, il va même plus loin que lui, ce qu'il pouvait imaginer.
Ah oui, ah, mais Killer Joe est vraiment intéressant. Mais c'est vrai qu'en général, ces films de René qui découlent tous un peu de cette nouvelle de Flannery O'Connor, où en fait, la famille, elle arrive, elle va dans la campagne du sud, elle prend le détour, elle s'arrête à la station service, où on leur dit de ne pas aller plus loin. Et là, ils vont tomber sur des rednecks tueurs sans état d'âme. Et là, la communication ne va pas fonctionner. Comme dans Massacre à tronçonneuse, tout ça, ils sont en train de demander du sens, pourquoi vous faites ça, et ils n'ont rien, ça ne...
Mais là, elle fonctionne trop bien, c'est ça qui...
Et dans Killer Joe, c'est ça qui est intéressant. Killer Joe, il est... En plus, j'aimais bien comment ils ont vendu le film, parce que sur l'affiche, il y avait écrit « Click and Fry, The Redneck », enfin, vraiment tous les gros clichés. Et puis, en plus, ça se passe d'un mobilhome, c'est vraiment les white trash. Mais le film, il dépasse ça, il est vraiment intéressant. Ouais, là, on est dans autre chose. C'est...
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Alors, Yves-Marie, tu peux nous expliquer ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, donc c'était Maxime Lachaud qui nous parlait de son livre Redneck Movies, Ruralité et Dégénérescence dans le cinéma américain, qui est sorti à la fin de l'année précédente, fin 2014. Et là, on va l'écouter. C'est Maxime Lachaud qui va nous présenter le morceau de Snake Finger qui s'appelle Ballade de Sonny Bean. Et on enchaînera avec le morceau et ensuite on recevra Derek qui vient de nous présenter le Kino Club. Et avant les annonces. Voilà.
Bon, très bien, on écoute ça.
Mais alors le Sonny Bean, ça c'est intéressant. Donc ça, c'est extrait d'une compilation qu'avaient faite les Residents en 88 avec leur label Ralph Records. Et donc, ils ont voulu faire... ils sont allés enregistrer un peu comme du field recording. Ils sont allés enregistrer des vieux qui chantaient sur les porches, etc. Des vieux airs traditionnels, mais qui venaient souvent d'Écosse ou d'Irlande, ou en tout cas de... qui avait passé l'océan, les siècles, et des mythes aussi anciens, comme ce mythe de Sonny Bean. On ne sait pas s'il a existé ou pas, mais ça aurait été lui et sa famille d'au moins 50 cannibales qui vivaient dans des grottes. Alors selon certaines histoires, ça aurait été au 13e, 14e, d'autres disent que c'était au 17e... apparemment, il y aurait des faits historiques, ils auraient vraiment dévoré des gens qui passaient par là. Et ça a inspiré notamment La colline à des yeux, qui s'est vraiment inspirée de cette légende. Et qui est intéressant, parce que c'est des êtres primitifs, cannibales, c'est un peu comme ça qu'on a souvent représenté le redneck, mais qui est aussi garant d'être d'une histoire ancestrale. Et c'est pour ça que je pensais que le morceau, c'était pas mal de le passer.
When I come down from Liverpool, the day was dull and bleak. I met an old seafaring man, his name was Jack McTeague. He told to me a story about a robber mean who lived in a cave on the Scottish coast, and his name was Sonny Bean. 'Twas in the reign of Jolly James in 1424. His incestuously inbred family patrolled the Galloway shore. They robbed the innocent travellers, but worse than that they did. For they feasted on roasted murdered men, and then their bones they hid. Then good King James, he heard of this, and he sent 400 men. On hooks in the cave they found human flesh, and they took the family in. The women they burned in the public square, but not before they'd seen the men bleeding to death with no hands and feet, with their leader Sawney Bean.
Donc voilà, c'était notre entretien avec Maxime Lachaud, qu'on a donc fait vendredi dernier avec Derek, qui est en face de moi en direct, pour annoncer sa séance du Kino Club. Alors, peut-être rappeler, oui, donc le livre de Maxime Lachaud, on trouve très facilement dans les librairies de cinéma, surtout, et il s'appelle donc Redneck Movies, Ruralité et Dégénérescence dans le cinéma américain. Et il est aux éditions Rouge Profond. Et donc, on reçoit Derek pour que tu présentes le prochain Kino Club.
Bonjour, donc le prochain Kino Club c'est ce dimanche donc 18 janvier de cette année à 20h au Chakirai. Et donc le Chakirai, pour ceux qui ne savent pas encore où c'est au 72 rue Riquet, donc métro Max Dorbois, et c'est à partir de 19h30 et la séance commencera entre 20h et 20h30 quoi, voilà.
Et c'est sur le cinéma noir américain, c'est ça?
Voilà, c'est articulé autour du cinéma, on va dire, porté autour des Black Panthers. Et la séance est dédicacée de manière assez opportuniste, mais il faut des fois être opportuniste, est dédicacée à René Vautier, qui est décédé, je crois, le 4 janvier de cette année.
Alors, je précise que Gisèle et Sortir du colonialisme consacrent leur émission à René Vautier tout de suite après nous.
Bah tant mieux, super. Et en tout cas, voilà, c'est aussi pour marquer le coup. Et pour ceux qui connaissent pas, des fois les trucs macabres, ça donne envie toujours de voir les films. Donc tous les prétextes sont bons pour découvrir ce cinéaste. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas de film de lui malheureusement, parce qu'on avait déjà clôturé la programmation avant d'apprendre sa mort. Et donc voilà, ce sera surtout deux films qui sont très importants historiquement. Alors après, il y a plein de pépites qui sont importantes de toute manière, mais c'est surtout Black Revolution, qui date de un an après la formation du Black Panthers Party de 66. Donc le film de Black Revolution d'Edouard Delauro date de 67. C'est un 37 minutes, donc quasiment la même durée que Les Statues Meurent aussi des années 60 aussi de René et Chris Marker. Et un autre film très important parce que vraiment très rarement montré et avec une traduction inédite fait par un de nos habitués du kino, donc c'est The Spook Who Sat By The Door. Voilà, c'est un film de 73, donc là, j'ai pas fait exprès du tout, mais ça date quasiment la fin des Black Panthers. Ils existent encore jusqu'aux années 80, mais ils ont au plus aucun pouvoir médiatique ou autre, ils sont un peu décrédibilisés à cause des attentats, on peut le dire, formés par le FBI, voilà, de manière assez illégale.
Mais c'est un film inédit, non ? Parce qu'il n'a pas de titre français, il n'a jamais
été d'exploitation. Si, en fait, il a un titre français, c'est Notre Agent de Harlem, mais j'ai trouvé aucune critique française du film, sauf contemporaine, parce que dans le Black Revolution, là, le festival des écrans documentaires en 2009 à Saint-Denis, il l'avait quand même montré, quoi. Mais sinon, c'est vrai que même les Américains eux-mêmes qui l'auraient vu, il est à peine sorti, peut-être une semaine ou deux, et après, il a jarté des salles, et il y a une légende qui dit que toutes les copies ont été supprimées, on retrouve plus les copies, et heureusement il y avait un négatif original à partir duquel ils ont fait un très bon DVD que j'ai acheté en import. Mais alors après, est-ce que c'est une logique marketing pour te faire acheter des DVD ou est-ce que c'est vraiment vrai? Je pense qu'il y a moitié vrai, moitié faux, voilà, parce que bon, le FBI c'était vraiment des fervents antagonistes aux Black Panthers, et encore plus antagonistes, non pas au fait qu'ils portaient des armes les Black Panthers, ça je l'ai appris il y a pas si longtemps, mais tout simplement parce qu'ils faisaient des travaux sociaux, comme quoi les petits déjeuners dans les ghettos gratuits. Donc il faisait ce que devait faire le gouvernement, ce qu'il ne faisait pas à l'époque. Voilà. Donc c'est pour ça que ça gênait radicalement le gouvernement américain via le FBI. Voilà.
Et c'est un film sur le FBI d'ailleurs.
Sur la CIA, non, c'est un noir américain qui rentre dans la CIA, soi-disant comme il joue un peu à l'oncle Tom, quoi, c'est-à-dire le gentil noir qui vient vraiment représenter le gouvernement américain via la CIA. Et en fait, c'est pour apprendre, après son apprentissage à la CIA, apprendre à organiser les noirs américains et à se battre, à se défendre, à s'armer. Et c'est un film vraiment dingue par rapport à l'époque, c'est complètement fou parce que c'est un film très rigoureux, méthodique, froid, austère dans la mise en scène, où il n'y a pas du tout d'interprétation possible. C'est noir américain, organisez-vous et battons-nous, quoi. Enfin, voilà. Donc d'où je pense que la moitié de la légende est un peu vraie, que le gouvernement a voulu supprimer les copies. C'est fort possible, quoi. Comme on connaît un peu la tragédie de Sweet Back Bassong, qui a réussi à marcher aux États-Unis, mais jusqu'aux années 90, c'était impossible que le film soit exporté en Europe, par exemple, quoi. Donc c'est aussi, voilà, il y a... c'est des données qui sont, je trouve, très intéressantes, comme quoi le cinéma des fois peut devenir problématique dans le bon sens aussi, hein, du terme, voilà, par rapport aux politiques en place. Et il y a sinon un film de toi, Yves-Marie, que je vous invite à regarder, qui s'appelle Le fascisme à notre porte, qui est vraiment une tuerie de fan footage hérité un peu de Martin Arnold, qui travaille toujours sur le travail des portes. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Ça dure 2 minutes et c'est vraiment, vraiment important, surtout aujourd'hui, voilà, de voir ce film. C'est 2 minutes, mais voilà, c'est 2 minutes qui sont très importantes, je pense, voilà, comme un tag, quoi, voilà, pour moi, visuel. Il y a l'extrait pris à part du film Bowling for Columbine's A Brief History of the United States of America, que je trouve la meilleure séquence de Bowling for Columbine. Et c'est en fait un dessin animé qui a été créé pour Bowling for Columbine de Michael Moore en 2003.
Par les gens de South Park ?
Non, justement, c'est influencé par les gens de South Park, mais c'est Harold Moss qui a fait le dessin, qui est le fondateur et le directeur de Flickr Lab. Voilà. Et d'ailleurs, ils se sont vengés, hein, les créateurs de South Park, puisqu'ils ont fait Team America World Police en 2004. Et ils tirent, enfin voilà, ils tirent sur Michael Moore, clowné, comme les extrémistes, sur tout ce qui bouge, quoi. Et donc voilà, enfin voilà, enfin je pense que les films les plus importants qu'on montre, c'est quand même, bon, au niveau historique entre guillemets, pour faire prout, c'est Black Revolution et The Spook Who Sat By The Door, vraiment avec une traduction inédite, j'insiste, qui voilà, qui va, on va enfin pouvoir bien découvrir ce film, quoi.
Il est très rare, en fait, hein, le film de Leroux. Tu connais un peu Édouard Deleu sur lui ?
Pas beaucoup. Moi, je connais que ce qu'a écrit Nicole Brenez et Régis Dubois sur Internet. Je suis allé regarder. Il n'y a qu'eux qui ont trouvé des infos. Alors, je ne sais pas comment. D'ailleurs, je peux citer vite fait ce qu'ils écrivent le début de leur texte. C'est à l'instar de celui de René Vautier. Donc voilà, on revient sur René Vautier. Le trajet du cinéaste polonais Édouard Deleu mène directement des combats de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale aux luttes de libération des années 60 et 70. Voilà, après, ce que je sais, c'est un truc un peu people, c'est qu'il était avec la très très belle actrice morte très tôt, Zoé Tamerlis, dit Zoé Lund, qui a joué l'ange de la vengeance de Abel Ferrara, c'est elle la comédienne principale, et qui d'ailleurs donne aussi son shoot à Harvey Keitel dans Bad Lieutenant. Donc ils étaient tous les deux ensemble, donc c'était tous les deux des très très grands militants. Mais sinon, ouais, à part ce qu'ils disent plus loin, comme quoi il a appris à manier une caméra un peu comme René Vautier pendant la Seconde Guerre mondiale, j'en sais pas plus. Après, il y a d'autres films, ils sont franchement invisibles, qu'il a fait deux, trois autres films, que franchement, j'ai pas du tout réussi à voir. Mais en tout cas, ce film, rien que dans l'intertitre, il a eu beaucoup de prix, il a assez bien fonctionné dans les festivals. À son époque, quoi, et bon, voilà, il est quand même régulièrement défendu par, entre guillemets, des programmateurs un peu activistes, régulièrement, quoi.
En tout cas, il est trouvable. Passé à Saint-Denis aussi.
Comment ?
Au festival
Saint-Denis. Oui, il est passé, ouais, carrément à Saint-Denis. Mais il fait partie, je pense, peut-être des 10 grands fleurons du cinéma noir américain des années 60 aux années 90. Hein. Ça, c'est sûr qu'il en fait facilement partie, quoi. Et sinon, j'en ai pas parlé, mais je montre aussi Pen Up the Pigs de Kelly Gallagher, qu'on a découvert cette année, enfin l'année dernière en 2004, au Festival des cinémas différents. Voilà, c'est un montage très pop autour de la question du Black Power, donc de found footage. Donc found footage, pour ceux qui savent pas, c'est détournement d'images préexistantes pour raconter autre chose, quoi. Ou la même chose, hein, ça peut arriver de manière plus concise, par exemple. Et c'est un peu la rencontre entre la cinéaste expérimentale Martha Colburn, Scarlett Diva d'Asia Argento, donc fait en 2000, et American Revolution 2 de 69. Voilà, autre grand film documentaire sur la question des Black Panthers. Avec Fred Hampton, d'ailleurs, un grand activiste, assassiné d'ailleurs par la police, orchestré par le FBI. Donc fin 60 ou début... Non, fin 60, puisque le film date de 69, voilà.
Il y a un film de toi aussi, je vois, Derek.
Alors ouais, ça c'est un clip de fan footage. J'assume pas spécialement, parce que on peut pas dire que je sois fan de la musique, mais les musiciens ont été vraiment adorables, ils m'ont laissé vraiment carte blanche sur donc l'idée de sur quoi j'allais quel champ lexico-visuel j'allais traiter. Et donc en effet, c'est Traders versus Cowboy Revanchard, voilà. Donc enfin, je me suis vraiment éclaté à le faire. Et puis indirectement, ça traite aussi dans le non-dit, dans la non-représentation des Black Panthers, tout ça, quoi. Voilà, c'est une sorte de truc en intro, en exergue, qui pourrait peut-être être influencé vaguement par cette séquence que je trouve assez drôle de Bowling for Columbine, même si elle est très cliché, où c'est les flics qui arrêtent de la même manière les Noirs américains, mais cette fois-ci ils arrêtent les Traders. Voilà, je trouvais ça assez drôle, et donc c'est peut-être ça qui m'a donné l'idée des cowboys versus Traders, quoi. Voilà, donc 19e siècle Wasp contre 20e siècle Wasp aussi, quoi. Voilà.
Alors ça, c'est les infos de toute façon que vous pouvez retrouver sur le site du Shakirail, c'est Shakirail, et donc c'est dimanche prochain, c'est prix libre.
Ouais.
Et c'est rue Riquet à Max Dormois.
Vous êtes les très bienvenus. Et il y aura un peu à manger et à boire, voilà.
Et si on t'avait des annonces en fait, Christophe ?
Oui, il y a pas mal d'annonces cette semaine. Pardon. Eh bien, ce soir à 19h30, soirée vidéo, les rendez-vous blues avec Blues en Liberté de Radio Libertaire. Alors, les rendez-vous blues commencent cette nouvelle année, que nous espérons moins pire que l'autre. Ça, ouais, c'est pas gagné encore, ça. Alors, on commencera donc par un concert de B.B. King, concert de 2003 avec Jeff Beck comme invité. C'est entrée libre et c'est au 145 rue Amelot, la librairie Publico du Monde Libertaire. Ce soir également, aux Instants Chavirés à Montreuil, le groupe Fenêtre Ovale. On avait invité il y a quelques temps maintenant Joris Rull et Evry Sœur qui nous avaient largement parlé de ce projet. Soirée en deux temps. En première partie, le quatuor de Fenêtre Ovale présentera une première étape de création de Fenêtre Ovale, deuxième volet, composé par Karl Naglen. En seconde partie, les mêmes musiciens improviseront sur la vidéo Morceau de poire de Joris Rull. Alors c'est Joris Rull à la clarinette, Amaryllis Billet au violon, Evry Sœur au piano, Thomas Gouban aux percussions et Karl Naglen à la composition. Donc c'est aux instants chavirés, 7 rue Richard Lenoir à Montreuil, métro Robespierre. Ce soir, donc c'est à 20h30. Ce soir également, vendredi 16 janvier, deux duos, Iva, qu'on a reçu aussi à plusieurs reprises dans notre émission, Iva, duo contrebasse et voix, premier duo, et deuxième duo, Pascal Tardif et notre ami Jacques Pochat, qui décidément se produit toutes les semaines. Et alors là, c'est un lieu, un nouveau lieu, près de la gare du Nord, un lieu qui s'appelle Tiassi. C'est 13 rue de l'Aqueduc à Paris, participation libre, Iva et Pascal Tardif et Jacques Pochat, et c'est à 20h30, voilà. 13 rue de l'Aqueduc, au lieu appelé Tiachi. Le samedi 17 janvier, c'est-à-dire demain à 16h30, rencontre et débat avec Joachim Serra autour de son livre « Chemin d'espoir et d'exil », les éditions libertaires. Alors je vous lis les trucs. « Fils de réfugié espagnol, le nom de Franco a résonné dans mon esprit d'enfant durant de longues années d'exil. Mais c'est uniquement au crépuscule de leur vie que mon père et ma mère ont accepté d'ouvrir leur mémoire au public. J'ai passé de longs mois à les écouter, écrire, lire et relire avec eux cette banale et en même temps extraordinaire épopée démarrée en 1933 dans un village de la province de Teruel, pour se terminer en 1945 dans le Berry. Alors c'est toujours à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, et c'est entrée libre, demain, donc samedi 17 janvier, à 16h30. Le dimanche 18 janvier, de 14h à 19h, conférence débat en public en réaction aux événements du 7 janvier, le massacre qui a eu lieu à Charlie Hebdo. Et ça se déroule donc de 14h à 19h au local de la CNT 33 rue des Vignoles. Alors il sera question de laïcité, de liberté d'expression. Et alors avec des interventions de la Ligue des droits de l'homme sur la liberté d'expression, du syndicat de la presse de la CNT sur la liberté de la presse, René Berthier sur le thème « Ni l'État, ni les religions, ni les gouvernements ne garantissent nos libertés ». René Burget, membre de l'Union pacifiste « Un monde en guerre ». William Blanc, historien, animateur de Radio Gollard sur Radio Libertaire, l'histoire, un champ de bataille pour nos libertés, et enfin Bernard Tepper, la laïcité aujourd'hui. C'est dimanche 18 janvier de 14h à 19h au local de la CNT, 33 rue des Vignoles, dans le 20e arrondissement de Paris, métro Avron ou Buzinval. Ces conférences seront diffusées en direct, bien sûr, sur notre antenne, sur Radio Libertaire, hein, dimanche, et elles sont publiques, vous pouvez vous rendre au 33 rue des Vignoles. Voilà, mercredi 21 janvier, enfin, dans le 11e arrondissement de Paris, à 20h, le ciné de la Commune vous propose la projection de « Je demande la parole », première partie du documentaire « Un autre futur » de Richard Prost, qui retrace l'histoire de l'anarcho-syndicalisme espagnol, des origines jusqu'à la mort du Caudillo en 1975. « Je demande la parole » est consacré aux origines de la CNT, les luttes ouvrières, les approches de la transformation sociale, organisées par le groupe Commune de Paris de la FA. L'entrée est libre, toujours au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, la librairie du Monde Libertaire. Voilà. Et alors ? Ah d'accord. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire, Derek ?
Bah tout ça c'est très bien, hein, ce que t'as dit, quoi. Et bon, on espère vous voir à tous ces événements ou à ceux auxquels vous pourrez assister.
Je crois qu'on peut enchaîner la journée de débat à la CNT sur Charlie Hebdo, et puis aller directement au Shakira et voir la soirée organisée autour des Black Panthers. C'est un thème assez politique. Je me suis laissé dire que c'était annoncé un petit peu dans des réseaux militants ce coup-ci. J'ai vu Deméosphère. Il me semble que tu es intervenu sur Fréquence Paris Pluriel.
Oui, mais alors après, c'est un sujet qui est étrangement toujours à la mode depuis au moins une bonne vingtaine d'années. Quoi. Bah oui. Donc,
enfin, ouais, c'est ça.
Et, mais après, c'est pourquoi c'est peut-être, je trouve, le plus beau combat mené par une communauté vraiment tout court, quoi. Enfin, à tous les niveaux. Je trouve que c'est très riche. Et puis même, c'est très paradoxal parce qu'ils viennent après les droits civiques de Martin Luther King, qui était non violent. Donc on veut toujours les confronter l'un contre l'autre, mais l'un n'aurait pas été sans l'autre. Mmh. Et justement, c'est une sorte de continuité de relais que je trouve vraiment très magnifique, qui s'adapte aussi par rapport à une autre époque, voilà. Et je sais pas si Yves-Marie t'as envie de dire quelque chose, une annonce ou...
Oh non, c'était juste annoncer le peut-être le morceau. Peut-être qu'on va pas finir l'émission, peut-être qu'on en passera encore un autre parce qu'il reste encore un peu de temps. Mais en fait, je voulais passer un morceau dont les paroles ont été écrites par GB, qui était donc l'un des fondateurs de Charlie Hebdo, fondateur aussi de Charlie Hebdo, dernière génération, c'est-à-dire quand ça a repris dans les années 90, mais il était là dès le 7e numéro, je crois, de Harakiri, donc était né dans les années 60, donc dès 1960, il faisait déjà partie de l'équipe, et en fait, il avait écrit un morceau, c'était une commande pour Yves Montand, qui aimait beaucoup le travail de GB, et c'est un morceau qui s'appelle Casse-pipe, c'est un morceau 78 qui énumère plein de formes de violence et de morts possibles, qui énumère pas par contre celle qui les a frappés. C'est un morceau que j'écoutais en boucle la semaine dernière, et en l'écoutant, c'est vrai que je me disais qu'on était passé dans un autre monde. En fait, les violences auxquelles il se réfère, c'est vraiment des violences des années 70, les violences qui sont aussi d'actualité, hein, les violences policières et les violences sur les animaux. Donc voilà, donc c'était on peut passer le morceau Casse-pipe, donc, écrit par GB.
Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica Yann Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noir. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête de raciste empurée? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dedans, et se découvrent en nouveau monde? Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka argentin, et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient.
Voilà, c'était Yves Montand sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Alors, la semaine prochaine, nous avons été enregistrés lors du festival Acouphène à Genève, Yann Leguet. Donc c'est un artiste sonore, un plasticien, un jeune gars très très sympa. C'est assez marrant cette interview d'ailleurs, on l'a fait dans la rue. Et bah, je vous encourage à écouter ça, c'est vraiment un travail très passionnant. Et puis on diffusera cette émission la veille de son passage au MacVal. C'est une manifestation dont on reparlera la semaine prochaine, qui est organisée par les Instants Chavirés également, donc au MacVal, le lieu d'art contemporain du Val-de-Marne. Et voilà, et on diffusera aussi, je pense, l'intégralité de son concert d'une trentaine de minutes à Acouphènes, et c'est vraiment, vraiment très très bien ce qu'il fait. Voilà, ça c'est la semaine prochaine. Bah, je crois qu'on peut dire au revoir à nos auditeurs.
Bah, au revoir les auditeurs, au revoir Christophe.
Allez, salut Yves-Marie, allez, à bientôt.